C'est par un simple communiqué que cet hôpital de Londres a annoncé hier soir le décès d'Alexandre Litvinenko. L'ancien espion russe passé à l'Ouest est mort d'un empoisonnement au polonium-210, une matière hautement radioactive.
Bonsoir. Le poison comme arme fatale. Tous les pouvoirs, sans exception, ont un jour employé ces mixtures, mélanges, potions toxiques pour éliminer ce qui était devenu gênant. Ce soir, nous allons lever le rideau sur l'une des plus extraordinaires histoires d'empoisonnement de ces dernières années. Au mois de novembre 2006, la mort à Londres, dans d'atroces souffrances et quasiment en direct dans les médias, de l'opposant russe Alexandre Litvinenko. Quelques grains de polonium dans une tasse de thé, une substance radioactive quasi inconnue et quasi indétectable. L'affaire Litvinenko révèle alors peu à peu un scénario digne d'un James Bond, une vengeance fomentée depuis Moscou et même depuis le Kremlin, selon les Britanniques, pour éliminer un ancien officier de renseignement russe, considéré comme un traître. L'opération Polonium a été méticuleusement organisée, a mobilisé les meilleurs spécialistes en armes toxiques dans le but de tuer un homme qui se croyait à l'abri, à 3000 km de Moscou. C'est cette histoire, celle de la mort du colonel Litvinenko, que nous allons explorer ce soir avec nos invités et experts. Histoire sur fond d'espionnage et de tueur insaisissable qui n'a livré sans doute qu'une toute petite partie de ses secrets.
20h-21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Et ce soir dans l'heure du crime, la mort lente d'Alexandre Litvinenko, ce russe qui a déclaré la guerre à Vladimir Poutine, va être empoisonné dans quelques heures au cours de cette journée de l'hiver 2006. Il va tomber malade. Ce 1er novembre 2006, Alexandre Litvinenko, 43 ans, quitte la petite maison de briques qu'il occupe dans le quartier de Muswell Hill, au nord de Londres. Il s'y est installé quand il est venu se réfugier en Grande-Bretagne après avoir fui la Russie. Ce matin-là, il sort de la demeure avec Marina, son épouse russe. Elle prend le volant de la voiture familiale et dépose son mari à la station de métro la plus proche. Alexandre, que son épouse et ses amis surnomment affectueusement Sacha, n'a pas l'air inquiet. Il dit à Marina qu'il a deux rendez-vous successifs au centre de Londres, mais lui promet qu'il sera de retour à la maison sur les coups de 19h. Marina insiste pour qu'il soit à l'heure. Elle a prévu un dîner spécial pour célébrer ce soir-là un anniversaire très particulier, les 6 ans de leur fuite de Russie et leur installation qui paraît désormais définitive à Londres. Le couple se sépare à l'entrée de la bouche de métro. Marina va rendre visite à des amis, puis va chercher Anatoly, leur fils âgé de 12 ans, à la sortie de l'école. La journée se déroule sans incident. Litvinenko est comme prévu de retour chez lui à 19h tapante. Il est en forme, il se change pour le repas du soir, utilise son ordinateur puis se met à table. Vers 23h, il indique qu'il va se coucher car il a un rendez-vous tôt le lendemain matin. Quand Marina monte le rejoindre, Alexandre est dans la salle de bain. Il vomit. Il va être malade toute la nuit, se levant toutes les demi-heures. Le lendemain 2 novembre, Alexandre Litvinenko n'a pas pu sortir de son lit. Il est encore trop malade. Marina est persuadée qu'il s'agit d'une intoxication alimentaire. Elle file à la pharmacie acheter des comprimés contre la nausée. Quand elle retourne à la maison, son mari est à nouveau enfermé dans les toilettes. Cette fois, il a changé d'apparence. Le teint de son visage paraît grisâtre. Il confie à Marina qu'il ne s'agit pas d'une banale intoxication. « J'ai l'impression que quelqu'un m'a empoisonné », dit-il à son épouse. Litvinenko est un ancien officier des services secrets russes, le FSB, nouveau nom du KGB. Quand il était en poste à Moscou, il voulait dénoncer la corruption au sein du pouvoir russe. Il s'était vite heurté à Vladimir Poutine, au point d'en devenir un ennemi juré. Au mois d'octobre 2000, le colonel Litvinenko avait réussi à fausser compagnie aux hommes qui le surveillaient. Il avait traversé la frontière avec l'Ukraine, puis fait venir Marina et leur fils jusqu'en Espagne. Le couple avait ensuite séjourné sous de faux noms en Turquie, puis s'était réfugié à Londres, sous l'aile de l'oligarque en exil et bête noire de Poutine, Boris Berezovsky. Bonsoir Jérôme Poirot.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste du renseignement et auteur d'un livre très épais que j'ai sous les yeux, d'ailleurs le Dictionnaire du renseignement aux éditions Perrin, collection T. Campus, qui fait le point vraiment sur toutes les affaires d'espionnage et que je recommande aux amateurs de ces questions parce qu'ils y trouveront finalement vraiment leur compte. Alors on est au tout début là de l'affaire. Alexandre Litvinenko est malade, on le comprend bien, intoxication qui va bien sûr s'aggraver, et on va détailler dans les chapitres suivants le scénario de ce qui a pu se passer. Alors j'ai rapidement dressé brossé le portrait de Alexandre Litvinenko. Qui est-il, cet homme ? C'est un opposant pur et dur ? C'est un ancien des services secrets ?
Alors, c'est d'abord quelqu'un qui a vécu à l'heure de l'URSS. Donc, avant d'être un officier du FSB, il a été un officier du KGB. Donc, il a vécu la chute de l'URSS, qui a été un traumatisme important. Et puis, pour des raisons qui sont assez troubles, il est devenu un opposant au régime et une sorte de lanceur d'alerte voulant dénoncer la corruption au sein du régime. Ce qui est assez particulier pour un agent de renseignement, surtout dans un pays comme l'URSS ou la Russie. Donc en fait, il est entré dans le champ politique et ce qui l'a amené, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, à fuir l'URSS, à fuir la Russie, puisqu'il était un adversaire et même un ennemi de Vladimir Poutine et donc il était en danger en Russie.
Et il est considéré, on peut le dire, comme un traître en Russie.
Hein ? Ah bien sûr.
Ça se fait pas ce genre de choses quand on a
un agent de renseignement, quels que soient les pays, n'a pas vocation à se retourner contre son pays. Et ce qu'il a fait est, du point de vue russe, quelque chose qui est inadmissible.
Philippe Comte, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence de langue et civilisation russe à la Sorbonne, rédacteur adjoint de la revue Russe, et puis vice-président de l'association française des Russissants. Voilà, tous vos titres sont sur la table. Je parle de Litvinenko à Londres. C'est le refuge, un petit peu, des opposants au pouvoir de Moscou, à ce moment-là. Et toujours aujourd'hui, sans doute.
Oui, enfin, oui et non. Hein. C'est-à-dire que je crois que Litvinenko est allé là où c'était le plus facile d'entrer et où il avait le plus de chances, à la fois pour des raisons administratives et techniques, d'avoir un droit d'asile au départ politique. Hein. Il a essayé avec les États-Unis. Ça n'a pas marché pour un hasard de quelques heures à partir de l'ambassade d'Istanbul. Et donc le refuge, ça a été la Grande-Bretagne. Mais au départ, son idée, c'était de se rendre aux États-Unis.
Je vous dis ça parce que ça a son importance, parce qu'il retrouve là-bas, je l'ai dit brièvement, mais qu'il va le prendre sous son aile, c'est Berezovsky, qui est lui le grand opposant à Poutine.
Oui, c'est un homme d'affaires, hein, Berezovsky, ça a été aussi un homme politique, c'est un des grands personnages de la période des années Yeltsin, dans les années 90, à la fois homme d'affaires, et puis ensuite très intégré dans les structures du pouvoir, puisqu'elle a été secrétaire adjoint du Conseil de sécurité en 97-98. C'est un homme très influent, c'est un génie des affaires, un homme remarquablement intelligent, qui a, comme tous dans ces années-là, trempé dans de sombres histoires, mais qui en même temps est un excellent gestionnaire d'entreprise. Mmh. Et un type qui sait gérer, et gérer de façon extrêmement rationnelle, pour le bien du business, les entreprises qu'il contrôle.
Jérôme Poirot, je reviens vers vous, spécialiste du renseignement. J'ai dit que finalement, il prenait le métro, Litvinenko, comme un Britannique banal et normal. Il se sent pas très menacé, on a l'impression.
Non, manifestement, il se sentait en sécurité en Grande-Bretagne, sans doute pour une raison simple, c'est qu'il avait des liens étroits avec le MI6, c'est-à-dire le service de renseignement extérieur britannique. Espionnage et contre-espionnage, et donc il se sentait vraisemblablement protégé.
C'est ça, donc peut-être un mot encore, Philippe Comte,
oui,
rapidement.
Pour revenir sur votre première question, pour compléter un peu ce que disait M. Poirot à l'instant, l'élément déclencheur du basculement de Litvinenko, c'est fin décembre 97, ses supérieurs hiérarchiques, le change de structure à l'intérieur du FSB, hein, il change de structure, et il entre dans une structure, sur ordre, il entre dans une structure qui est chargée, d'une part, de la lutte contre la corruption, mais surtout de ce qu'on appelle les opérations spéciales, c'est-à-dire on va lui demander d'assassiner un certain nombre d'individus, dont Berezovsky, dont un ancien collègue du FSB, n'est-ce pas, qui parle un peu trop. C'est pas tellement une opposition au régime, si vous voulez, mais c'est là qu'il va bloquer, il y a une prise de conscience et il va se cabrer. C'est le point de départ.
L'état de santé d'Alexandre Litvinenko va se dégrader considérablement sans que l'on sache pourtant de quel mal étrange souffre l'ancien colonel du FSB, les services russes. Maladie qui va immédiatement intriguer et alerter le contre-espionnage britannique. Le 2 novembre 2006, Litvinenko est emporté par une ambulance jusqu'au Barnett General Hospital, l'hôpital le plus proche de son domicile. Alors qu'il se sentait de plus en plus mal, il a conversé avec son épouse. Tous deux ont eu le sentiment que ce qu'il redoutait depuis 6 ans est arrivé. Une vengeance de la Russie à travers non pas une exécution pure et simple, mais un discret empoisonnement. Pour le moment, le malade a toute sa tête. Il semble même montrer parfois des signes de rémission, puis plonge soudain dans une grande fatigue. Aux médecins qui le prennent en charge, Litvinenko affirme qu'il a été empoisonné. Il insiste pour qu'une batterie de tests soit effectuée. Les docteurs cherchent des traces de virus, d'allergies alimentaires et de poisons, mais ils ne trouvent absolument rien. Le patient continue à souffrir de vomissements et de douleurs musculaires intenses. Ses défenses immunitaires se dégradent, impossible de trouver un antipoison efficace. L'hospitalisation d'Alexandre Litvinenko ne passe pas inaperçue dans le monde du renseignement britannique. Le Russe y est une figure bien connue. Il avait été débriefé lors de son arrivée à Londres par les services de contre-espionnage. Litvinenko aurait continué à livrer des informations au MI6, quitte à s'attirer les foudres de Moscou et à être présenté comme un traître. Dans les jours qui suivent, le patient du Barnett General Hospital est discrètement entendu par la police sur sa journée du 1er novembre. Il peut raconter qu'il a eu ce jour-là deux rendez-vous de travail. Le premier avec un Italien qu'il rencontrait pour la première fois, un certain Mario Scaramella, un personnage qui travaille pour une commission parlementaire d'enquête sur l'infiltration des services russes au sein des institutions italiennes. Scaramella a lourdement insisté pour avoir ce rendez-vous. La rencontre a eu lieu dans un restaurant de sushi bon marché, Itsu, dans le quartier de Piccadilly. L'Italien est bizarre. Il lui a raconté qu'ils étaient tous deux en danger, recherchés par une organisation d'anciens agents du KGB baptisée Dignité et Honneur. Litvinenko est alors persuadé que Scaramella est son empoisonneur. La police va se mettre discrètement sur la piste de ce mystérieux Italien. Après avoir quitté Mario Scaramella, Litvinenko s'est rendu à son deuxième rendez-vous, au Millennium Hotel, un établissement de luxe sur Grosvenor Square, tout près de l'ambassade américaine, au Pine Bar, le salon de thé de l'hôtel. Il a retrouvé à 16h30 deux vieilles connaissances et expatriés russes. Andrei Lugovoy, un homme d'affaires avec qui il travaille sur des contrats de sécurité privée, et Dimitri Kovtun, lui aussi un ancien du KGB naviguant dans le même milieu de la protection rapprochée. Le trio converse en russe, l'ambiance est détendue, la discussion porte sur une firme de sécurité, Ernis, dans laquelle ils ont des intérêts. Lugovoy et Kovtun boivent du gin et fument un cigare. Litvinenko, qui ne fume pas et ne consomme pas d'alcool, prend une tasse de thé vert. Le rendez-vous dure 25 minutes. Au moment de partir, surgit un troisième compatriote, Vyacheslav Sokolenko, lui aussi dans le business de la sécurité. Tout le monde se serre la main et se quitte, bons amis. Alors, tout se joue lors de ces deux rendez-vous, finalement, hein, le déclenchement de la maladie de Litvinenko. Dans l'ordre, il y a tout d'abord cet étrange Mario Scaramella. On dit tout de suite, ça ne va pas être le personnage principal de cette affaire. Est-ce que vous savez qui il est? Il a une mauvaise réputation. C'est en fait un escroc italien, hein, qui court un petit peu les contrats à droite à gauche et qui essaie de gagner un peu d'argent.
Un escroc est sans doute un mythomane aussi. La discussion qu'il a avec Litvinenko montre qu'effectivement, il grossit les choses et il invente vraisemblablement un certain nombre de choses pour s'attirer les bonnes grâces de Litvinenko.
Oui, parce qu'il a beaucoup insisté pour avoir ce rendez-vous. On ne peut donc pas l'exclure de la sphère des suspects, évidemment. On connaît ce groupuscule Dignité et Honneur
Scaramella a été mis hors de cause par la recherche, par l'enquête britannique, hein, ensuite, dans cette affaire. Les deux principaux tueurs, on en reparlera, c'est Lugovoy et Kovtun. Oui, l'organisation dont vous parlez fait partie du réveil des les services secrets russes après le choc un petit peu et les perturbations qu'ils ont connues dans les années 91, 92, 93, où ils sont réorganisés, ils ont été pris en flagrant délit de participation à un putsch manqué contre Gorbatchev en août 91, et le pouvoir central, Yeltsin et ses ministres, tentent de réduire leur influence et de les diviser pour régner. Alors ils se remettent du choc, et en 95 à peu près, on sent bien, dans l'histoire des services secrets soviétiques, ex-soviétiques, pardon, qu'il y a une réorganisation, et il y a des généraux, des officiers supérieurs, qui inquiètent de l'évolution du régime et de la société post-soviétique, à leur avis, de leur manière, tentent de former des structures assez discrètes, influentes, au sein même des services de sécurité et du pouvoir russe. Attention, les enquêtes montrent qu'ils sont déjà 35% parmi la haute administration russe. Il y a 35% d'officiers supérieurs des services secrets au sein du gouvernement et des institutions de l'État. La montée au pouvoir a commencé.
Avec l'émergence, Philippe Comte, effectivement, de groupes paramilitaires qui vont se multiplier en Russie. Alors, il y a ces deux hommes, vous venez d'en parler, Lugovoy et Kovtun. Jérôme Poirot, un mot déjà sur ce duo. Qu'est-ce qu'on sait de ces...
Ce sont des anciens du KGB, mais on n'est jamais vraiment tout à fait ancien du KGB ou du FSB. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui, après la chute de l'URSS, ont trouver à s'employer dans d'autres activités, à faire du business, à partir à l'étranger. Tout ça est tout à fait normal et compatible avec la doctrine politique du Kremlin, mais ils ont appartenu aux organes de sécurité. Et donc, ils ont toujours cette fidélité avec Moscou, avec le SVR, ce qui explique qu'ils peuvent être utilisés pour des missions ponctuelles.
Donc, agent double, finalement, d'être retourné.
Eux sont restés fidèles.
Quand il le faut.
C'est exactement ça.
Philippe Comte, alors un mot sur cette espèce de duplicité.
Ces deux types-là, ils sont...
Parce que c'est important ce que dit, je vous coupe, mais c'est important ce que dit Jérôme Poirot sur le fait de la fidélité à Moscou, qui va expliquer un petit peu cette vengeance.
C'est plus que ça, c'est beaucoup plus concret. C'est-à-dire que dans les années 90, ces types sont sur l'arrière-scène de la situation. Ce ne sont pas ceux qui font fortune. Alors, ils se débrouillent comme ils peuvent et ils vont se faire embaucher. Ils vont rester au KGB, FSB, ou dans les différents services. Mais comme ils ne gagnent pas assez leur vie, que l'État est en faillite, ils vont se faire embaucher en même temps. Dans des sociétés privées comme responsables de la sécurité, de l'espionnage industriel, de l'espionnage des autres, etc. Les grands patrons russes de cette époque-là vont tous engager à coût de dizaines de milliers de dollars par mois,
des spécialistes
du FSB, des généraux, mais qui restent au FSB. Et le moment venu, le pouvoir russe, avec Poutine arrivé au pouvoir un peu plus tard, aura des dossiers compromettants, ce qu'on appelle en russe kompromat, sur chacun de ces messieurs et pourra frapper. Vous voyez, le moment venu. On les tient puisque tout le monde, dans les années 90, met la main dans le pot de confiture.
Il y aura un levier pour les faire bouger dans un sens ou dans l'autre.
Oui, il y aura des faits compromettants, des pièces compromettantes qui permettront de les coincer pour corruption ou autre. Mais comme tout le monde est corrompu et tout le monde met la main dans le pot de confiture, c'est facile après.
Sur son lit d'hôpital, Alexandre Litvinenko va peu à peu prendre conscience qu'il a été trahi et que ses assassins sont sans doute ses associés russes qui pourtant semblaient partager avec lui une même haine viscérale du pouvoir en place à Moscou. Au Barnett General Hospital, Alexandre Litvinenko continue de souffrir de vomissements, de diarrhées et de douleurs abdominales. Ses taux d'urée et de créatine dans le sang sont anormalement élevés. Les symptômes ressemblent à ceux d'une leucémie foudroyante. Le docteur Andrés Virchis, prévenu par le patient lui-même et son épouse d'un possible empoisonnement, décide le 16 novembre de nouvelles analyses. Litvinenko perd ses cheveux. Sa radioactivité est mesurée à l'aide d'un compteur Geiger, mais rien de ce côté-là. Une autre expertise menée par le pharmacologue Ivan Haus attribue alors la maladie à une absorption de thallium. Cette fois, la nouvelle de l'hospitalisation d'un ex-agent russe victime d'une attaque au poison commence à se répandre dans les journaux juste avant d'être transféré au University College Hospital, un établissement plus important et mieux sécurisé. Litvinenko se confie au médecin et même à un journaliste du Sunday Times pour une courte interview. Il aiguille tout le monde sur l'italien Scaramella, mais ne s'attarde pas sur le deuxième rendez-vous avec ses compatriotes russes. La commission d'enquête britannique sur l'affaire s'étonnera de ce silence. Elle l'attribuera à un péché d'orgueil, au fait que Litvinenko ne voulait pas avouer qu'il avait été trahi par les siens, des anciens agents du FSB comme lui, mais surtout des agents doubles. L'affaire Litvinenko commence à faire les gros titres de la presse. L'empoisonnement au thallium est partout. Alex Goldfarb, un microbiologiste russe exilé à New York, opposant à Poutine et ami de Litvinenko, met en scène l'agonie de l'ex-agent. Il distribue des photos du moribond sur son lit d'hôpital. Il est également à l'origine d'un court testament écrit par Litvinenko dans lequel celui-ci s'adresse au Kremlin. « Vous pouvez faire taire un homme, mais les hurlements de protestation du monde entier retentiront à vos oreilles pendant le reste de votre vie, monsieur Poutine. » Le but de cette campagne est de causer le plus de tort à Moscou et de désigner le régime comme le responsable de cet empoisonnement. Mardi 21 novembre, Alexandre Litvinenko semble reprendre des forces. Il parle, il sourit, il est beaucoup plus combatif. Mais dans les heures qui suivent, son état de santé décline. Le mercredi 23 novembre, il suffoque. À Marina, son épouse, qui ne quitte pas la chambre, il parvient à dire encore quelques mots. Dans la nuit, elle apprend que Alexandre est tombé dans le coma suite à une insuffisance cardiaque jeudi 24 novembre. Dans l'après-midi, les autorités sanitaires britanniques tiennent une conférence de presse. Litvinenko n'a pas été empoisonné au thallium, mais avec une substance alors inconnue du grand public, le polonium-210. Une heure plus tard, le patient rend son dernier souffle. Jérôme Poirot, spécialiste du renseignement, est avec nous ce soir, l'un de nos invités dans l'heure du crime. On a l'impression que cette agonie de Litvinenko est interminable. 15 jours avant qu'il ne rende son dernier souffle, alors qu'il aurait pu sans doute mourir de façon plus simple et plus rapide. C'est délibéré ?
Oui, c'est vraisemblablement délibéré, parce que les Russes et les Soviétiques ont une très longue expérience des poisons. D'ailleurs, au début des années 1920, Lénine avait fait créer au sein de l'Institut, au sein de l'Académie des sciences et au sein de l'Institut de biochimie, un département spécial appelé la Chambre, pour mettre au point des poisons pour éliminer sans trace des opposants en Russie et partout dans le monde. Et donc, vraisemblablement, si cette agonie de Litvinenko a duré longtemps, c'était pour frapper l'opinion mondiale, montrer la puissance de la Russie, montrer la détermination du président russe, donc punir Litvinenko, mais devant le monde entier.
Et devant le monde entier, et en plus, on a tous en mémoire ces images, ces photos qui sont diffusées dans la presse, où on voit cet homme qui était littéralement en train de mourir minute après minute, de s'éteindre et de disparaître. Donc là, effectivement, le coup est porte et il est puissant même.
Oui,
c'est un signal envoyé sans doute à ceux qui aimeraient peut-être...
C'est un double signal, c'est un signal au monde pour montrer la puissance de Moscou, et c'est un signal à d'autres qui pourraient être tentés de faire la même chose.
Philippe Comte, notre deuxième invité ce soir dans l'heure du crime, vous connaissez parfaitement le monde russe et la Russie. Là, on a affaire à du polonium qui est en fait une... Je fais court, je ne suis pas spécialiste de la question, mais c'est une matière radioactive qui a effectivement un pouvoir mortel selon les doses avec lesquelles elle peut être utilisée. Vous confirmez ce que dit Jérôme Poirot, cette tradition du poison chez les services russes, dans l'espionnage russe ?
Oui, et dans l'histoire de l'Union soviétique et post-soviétique, on a plusieurs exemples qui correspondent exactement au schéma de l'assassinat de Litvinenko. Il y en a un en 1926 que j'ai retrouvé qui concerne... il s'agit des transfuges, je parle uniquement des transfuges, c'est-à-dire des membres des services spéciaux qui passent à l'Ouest, qui trahissent au profit leur pays, au profit et leur structure, au profit d'une puissance occidentale ou une autre, souvent les États-Unis, la Grande-Bretagne ou même la France. On a un exemple très intéressant en 1926, il s'appelle Yaroslavski, alias
Nesterovitch. C'est très ancien.
Nesterovitch. C'est un homme aussi de la GPU, à l'époque on dit GPU, on ne dit pas KGB, et il est chargé par la GPU de former et d'entraîner des commandos terroristes macédoniens. Et à un moment donné, il va retourner sa veste, il se lasser de ce métier-là, Il va même écrire à ses supérieurs à Moscou pour leur déclarer qu'il rompt avec son passé et s'embaucher comme simple ouvrier dans une usine autrichienne. Et puis un jour, comme avec Litvinenko, il aura la visite d'un ancien camarade de travail, des services spéciaux.
Venu lui saluer.
Venu lui dire bonjour. Pareil, même schéma qu'avec Litvinenko.
Et lui offrir la tisane fatale.
Lui offrir la tisane fatale ou peut-être autre chose, glisser dans son café un poison et il sera empoisonné. D'accord. Son cadavre sera photographié par l'espion venu de Moscou, l'ancien collègue, et envoyé à la Loubianka comme preuve de la réussite de l'assassinat. C'est exactement le même schéma. D'accord. Simplement, à cette époque-là, il y a moins de publicité autour, mais à chaque fois, le principe pour les services secrets russes et soviétiques, c'est d'abord de faire savoir aux autres qu'il n'est pas question de trahir, et quand on trahit, c'est la mort. Mais je voudrais ajouter une chose, si vous me laissez une seconde, je ne vais pas trop parler. Litvinenko, à partir du moment où il refuse d'assassiner Boris Berezovsky, et ce qui est le déclencheur en fin 97 de son parcours fatal, de toute façon, il est fichu. Parce que s'il avait accepté de tuer Berezovsky, donc d'obéir aux ordres de ses supérieurs hiérarchiques, qui n'étaient pas forcément Poutine, bien entendu, hein, c'est son général chef de la structure qui donnait l'ordre, de façon complètement orale, s'il avait accepté de le faire, il aurait été liquidé par d'autres liquidateurs pour qu'il n'y ait pas de traces. Hein, c'est ce qui est arrivé aux assassins sur commande du général Rochlin en 98. On a retrouvé les trois cadavres calcinés autour de la datcha du général en 98.
On ne fait pas de cadeaux. Voilà.
Donc il était cuit. Hein,
Il était cuit. En tout cas, il a fini par être cuit, effectivement. Oui. Jérôme Poirot, ce genre d'opération, opération poison, opération polonium, le polonium, on sait que ça coûte très cher, que c'est sans doute compliqué à transporter, à utiliser. C'est l'œuvre véritablement de professionnels, c'est pas des apprentis chimistes.
Non, le polonium, ça ne se fabrique pas dans une cuisine d'appartement. Il faut un réacteur nucléaire pour le fabriquer. Donc, voilà. ça n'est accessible qu'à quelques pays dans le monde. Et encore faut-il avoir la volonté de le fabriquer. Donc, c'est une signature russe. Le choix du poison est aussi une signature, parce que certains poisons ne sont fabriqués que par certains pays. Le polonium, c'est la Russie. Tout le monde le sait. Donc, même quand la mort est immédiate, mais qu'on sait ensuite déceler quel est le poison qui a été utilisé, on sait qui a frappé.
Le crime est signé, finalement.
Hein. Effectivement.
L'apparition du polonium-210 va créer un vent de panique à l'hôpital et très vite dans Londres, substance hautement radioactive et toxique, susceptible de provoquer une mort foudroyante. L'enquête va se concentrer désormais sur les possibles empoisonneurs. Des traces de polonium ont été décelées dans l'estomac d'Alexandre Litvinenko peu avant qu'il ne meure. La substance est tellement dangereuse que l'autopsie de l'ex-agent est effectuée pour les légistes avec des tenues de techniciens de centrales nucléaires. Les tueurs ont aussi laissé de nombreuses traces derrière eux, des traces de polonium. Dans la théière du Millennium Hotel, la police scientifique détecte une radioactivité de 100 000 becquerels par centimètre carré, 10 fois la dose nécessaire pour tuer un être humain. Le polonium est présent à divers endroits du salon de thé. On en retrouve aussi au 8e étage de l'hôtel Sheraton, où les deux contacts russes de Litvinenko, Andrei Lugovoy et Dimitri Kovtun, ont séjourné au mois d'octobre. Il y a encore des traces de contamination dans deux avions de la British Airways empruntés par le duo et jusqu'en Allemagne sur le siège passager d'une BMW dans laquelle s'est déplacé Dimitri Kovtun. Au total, le polonium apparaît à 30 endroits différents. Plus curieux, la substance toxique est encore retrouvée au restaurant de sushi où l'ex-agent avait rendez-vous avec l'Italien Scaramella 2 heures avant d'avoir rencontré les Russes. L'Italien Scaramella est facilement retrouvé par Scotland Yard. Il pourrait avoir été lui aussi empoisonné au polonium après avoir rencontré Litvinenko. Il est donc hospitalisé par mesure de précaution. Le 6 décembre, il peut quitter sa chambre, rien de suspect. La police ne trouve rien à lui reprocher. Il est autorisé à rentrer en Italie où il sera arrêté pour une toute autre affaire, une escroquerie. Lugovoy et Kovtun, eux, ont depuis longtemps quitté l'Angleterre direction la Russie. Ils démentent toute implication. L'homme d'affaires Lugovoy donne même une conférence de presse à la télé. Il explique avoir séjourné à Londres pour assister en famille à un match de foot entre le club d'Arsenal et le CSKA Moscou. Du polonium sera effectivement retrouvé dans une tribune du stade VIP. Un journaliste allemand interviewe quelques jours plus tard Kovtun, qui a la peau étrangement bronzée. Il dit ne pas se souvenir de grand-chose sinon d'avoir fumé un cigare. 5 jours après l'interview, Kovtun, manifestement empoisonné par le polonium qu'il transportait, est hospitalisé à Moscou. Alors, on parle de ce polonium qu'on suit à la trace comme le petit poucé, finalement. Il y en a absolument partout. Jérôme Poirot, comment expliquer cette dissémination qui fait un peu amateur, quand même?
C'est très simple. Les services de renseignement russes sont assez rustiques. C'est-à-dire qu'ils sont très efficaces. La preuve, ils arrivent à éliminer à peu près qui ils veulent partout dans le monde. Mais leur signature est souvent visible. Et donc, ça ne leur pose aucun problème de laisser des traces, comme celles que vous venez de décrire, dans à peu près tout Londres, et de mettre en danger des personnes qui n'étaient pas la personne à éliminer. On trouve la même chose dans d'autres domaines, dans le domaine cyber. Il y a une signature russe aussi, qui est un peu rustique. Voilà, donc c'est la culture des services de renseignement.
Alors russe. Ça, c'est intéressant, on ne prend pas tellement de précautions. Philippe Comte, ça veut dire que finalement, le FSB, nouveau nom du KGB, est prêt finalement à sacrifier ses agents, quitte à ce qu'ils soient malades, hein, puisque je l'ai dit, Kovtun, il va être hospitalisé. Il a reçu des charges de polonium.
Oui, il y a plusieurs cas d'affaires sérieuses, comme celle-ci, où les exécutants sont ensuite exécutés. Donc, il faut faire disparaître des traces. Hein. C'est ce que je disais à propos de l'assassinat du général Rochlin, 98, qui aurait été un concurrent sérieux à la présidentielle en 99 ou 2000, et qui haïssait Yeltsin et ses équipes. Hein. C'était un homme plutôt partisan, d'ailleurs, du Parti communiste, mais très très populaire au sein de l'armée. C'était potentiellement un Bonaparte, hein, auteur d'un coup d'État. Donc il était dangereux pour le pouvoir. Alors, qui l'a éliminé après, on ne sait pas.
En tout cas, on est prêt à sacrifier les pions, c'est ça que je veux dire.
Les pions, sans problème.
Sur l'échiquier du...
Vous savez, c'est quand même un régime tout au long du XXe siècle qui a sacrifié bien plus que quelques pions, qui n'a pas hésité à s'attaquer à des classes sociales entières, n'est-ce pas, pour faire place nette. Donc un ou deux exécutants de moins ou de plus, ça n'a pas beaucoup d'importance.
Et d'accord, et d'ailleurs, Lugovoy va dire, je crois, à son épouse, il va lui confier les abrutis, ils nous ont aussi empoisonnés. À un moment donné, il va être très très inquiet pour sa santé, parce qu'il va voir que tout ça, ils ont transporté des fioles, il ne se doutait pas de la dangerosité de ce produit. Jérôme Poirot, je crois qu'il y a eu déjà une première tentative pour tuer Litvinenko, mais qui n'a pas abouti. C'était le mois précédent, je crois, autour du 16 octobre.
Oui, alors, est-ce que c'est une tentative qui a été avortée? Est-ce que c'était un avertissement? C'est possible également, les choses ne sont pas très claires, mais cela aurait dû alerter la victime qui, manifestement, était assez... qui n'imaginait pas qu'elle pouvait être exécutée dans les conditions dans lesquelles elle l'a été.
Elle est en confiance. Hein.
Oui, il y a un excès de confiance, ce qui est très surprenant, parce qu'il vient des services de renseignement, il sait ce que sont capables de faire le KGB ou le FSB, et il vit une vie tout à fait normale.
Si je vous parle de cette histoire, du 16 octobre, c'est dans une réunion de travail, hein, dans des bureaux, et on va finalement savoir qu'il y a eu sans doute une tentative, puisqu'on va retrouver des traces de polonium, et en fait, Litvinenko n'aurait pas consommé le café, cette fois c'était du café, qu'il aurait dû consommer. Donc il a échappé belle une première fois, mais pas, hélas pour lui, une seconde. Alors là, les deux Russes sont repartis chez eux, en Russie, là-bas, impossible de les rattraper. Ils sont à l'abri. Ils sont retournés au bercail.
Mais Lugovoy est devenu député de la Douma, du parti présidentiel, hein, Russie Unie. Il est devenu député, parce qu'on l'a fait député, bien évidemment, pour le récompenser. Et il a été même décoré d'une médaille, d'un ordre prestigieux, je ne sais plus quel, il m'échappe hein, là, pour l'instant, de la Fédération de Russie, par les autorités russes. Hein, pour service rendu à la patrie.
Hein,
donc, c'est un homme qui a eu pignon sur rue, jusqu'à présent, dans le Moscou, d'après l'assassinat des années 2008, 2009, 2010.
Jérôme Poirot, alors évidemment, les Scotland Yard va tout faire pour essayer de les entendre, ces hommes-là, de les retrouver. Ils ont leur nom, etc. Finalement, on connaît un petit peu ce qui s'est passé. Le scénario, on le voit, mais ils sont impossibles à rattraper à ce moment-là.
Non, c'est impossible. Scotland Yard le sait. Ce sont des agents ou ex-agents du KGB et du FSB. Donc, ils sont en Russie, ils sont protégés, ils sont intouchables.
Moins d'un an après la mort de Litvinenko, les autorités britanniques annoncent qu'elles vont poursuivre Andrei Lugovoy. En 2012, elles lanceront également des poursuites contre Dimitri Kovtun, sans se faire beaucoup d'illusions, effectivement, sur les résultats de cette démarche. Le 21 janvier 2016, 10 ans après la mort de Litvinenko, le juge chargé du dossier, Robert Owen, estime que l'ordre de tuer l'ex-agent en employant une substance toxique est probablement venu de Moscou avec l'aval du chef du FSB et celui du leader russe Vladimir Poutine. L'implication de Moscou s'appuie selon lui sur une quantité considérable de preuves documentées. Les enquêteurs ont conduit des centaines d'entretiens dont la plupart sont classés confidentiels. Tout au long des investigations, Moscou se serait fait tirer l'oreille pour donner la moindre information ou faciliter un interrogatoire avec les deux suspects, Lugovoy et Kovtun. Scotland Yard aura droit à un entretien express avec les deux hommes, mais n'obtiendra que des bribes de réponse avec interdiction de les enregistrer. La Russie répondra par la négative à une demande d'extradition. Le dossier sera finalement refermé et ne connaîtra pas de suite. Après la mort de son mari, Marina Litvinenko et son fils avaient déménagé dans un autre quartier de Londres sous la protection de l'opposant et homme d'affaires Boris Berezovsky. Celui-ci sera retrouvé mort, pendu dans sa salle de bain. La thèse du suicide ne sera jamais vraiment établie. Le 4 mars 2018, un ancien agent réfugié à Londres, Sergei Skripal, et sa fille seront eux aussi empoisonnés avec un agent neurotoxique, le Novichok. Ils réussiront eux à s'en sortir après une longue hospitalisation. Philippe Comte, spécialiste de la Russie, avec nous ce soir dans le studio de l'heure du crime. L'opération Litvinenko a réussi. Il est mort. Il a été tué par le poison. On le disait déjà, hein, mais c'est pas la première fois que les services secrets utilisent le poison pour tuer des opposants ou des ennemis. Il y a une très longue liste et une très longue tradition là-dessus.
Oui, d'une part, d'élimination des transfuges, ça c'est une chose. Mais il y a aussi l'utilisation du poison contre des ennemis désignés, des ennemis politiques désignés par le pouvoir soviétique. En la fin des années 50, Khrouchtchev, fait assassiner l'archevêque catholique uniate d'Ukraine, Romja. Bon, il l'a désigné comme un ennemi politique, c'est un archevêque, mais
par
le poison. Il donne l'ordre au MGB à l'époque, le service spéciaux, d'empoisonner l'archevêque, ce qui sera fait. On a aussi le cas d'un transfuge, à peu près le même schéma d'ailleurs que pour Litvinenko, c'est Nikolai Khachlov, qui est empoisonné en 1954 parce qu'il avait retourné sa veste et il était passé à la CIA. Il s'était proposé aux Américains à Francfort en 1954. Et lui aussi, c'était un tueur professionnel des services spéciaux soviétiques, hein, qui était chargé d'assassiner, d'ailleurs, des opposants politiques réfugiés à l'Ouest. Vous voyez, on retrouve le même schéma qu'avec Litvinenko. C'est une tradition. Et puis, on a aussi l'assassinat par empoisonnement d'un très grand journaliste en 2003. Hein, c'est beaucoup plus récent. C'est la même période, après tout, que Litvinenko. Hein, c'est 2003. Yuri Shekachir, une journaliste à la Nova Gazeta, qui enquêtait sur des affaires de corruption qui remontaient jusqu'au sommet de l'État russe et qui a été empoisonné également par une substance qu'on soupçonne aussi radioactive.
Et toxique. Alors, et puis il y a aussi le cas de, je l'ai évoqué, le cas de Skripal. Jérôme Poirot, vous êtes spécialiste du renseignement, racontez-nous aussi cette histoire qui est là encore plus récente.
Hein, oui, parce que c'est 2018 et c'est lui aussi un ancien agent des services russes, mais du GRU, c'est-à-dire du service de renseignement de l'armée russe. Et comme Litvinenko, il a commis sans doute la même erreur, c'est-à-dire que avoir déserté, tout ça n'est pas très bien, mais comme Litvinenko, il a franchi la ligne rouge du point de vue russe, c'est-à-dire qu'il a collaboré avec un service étranger, en l'espèce le MI6 britannique. Et Skripal, on le sait, avait été mis en garde sur le fait qu'il fallait qu'il cesse cette collaboration. Et il n'a pas cessé, c'est la même chose pour Litvinenko, il collaborait avec le MI6. Et donc c'est, à mon sens, ça qui a déclenché la décision de les éliminer. Alors Skripal a été empoisonné, sa fille également, il en a réchappé, mais de justesse. Mais on peut penser que c'était sans doute comme en 2006, l'idée c'était une agonie assez longue.
Assez longue.
Il en a réchappé, mais c'est de très peu.
À savoir que le produit utilisé là n'est pas du polonium, mais du novitchok. Alors, ne me demandez pas ce que c'est, parce que c'est
toute une gamme.
Quelque chose qu'il ne faut pas consommer, surtout. mais en tout cas, qui n'a pas fait le même effet que le polonium. D'ailleurs, c'est très curieux. Le polonium, il a été utilisé qu'une seule fois.
Oui, ça fait beaucoup trop de dégâts. Enfin, l'enquête collatéraux, que vous évoquiez a montré qu'il y avait des traces dans beaucoup d'endroits à Londres, ça n'était pas très raisonnable.
Philippe Comte.
Il y a quand même une dimension qu'il faut évoquer, ça a été un petit peu dit tout à l'heure par M. Poirot, je voudrais insister, c'est que avec Litvinenko, le FSB frappe au cœur d'une grande puissance occidentale. Et il envoie un message au monde, il dit « je peux frapper où je veux, quand je veux ». Et pas seulement mes transfuges, mais potentiellement d'autres aussi.
Oui, c'est ça, je peux aller vous chercher à 800 kilomètres.
Oui, c'est une démonstration de puissance d'une Russie qui se sent, en tout cas, qui est vue par son chef, à partir d'ailleurs de ces années-là, hein, souvenons-nous du discours de Poutine à Munich en 2007, hein, qui est un discours d'avertissement. Hein. C'est une puissance, un État qui dit au monde « je me sens vexé, humilié », c'est son discours à lui, hein, et donc voilà, je suis toujours aussi puissant et redoutable, voilà ce que je peux faire.
Donc voilà,
c'est l'intimidation à laquelle, évidemment, il ne faut pas céder, mais c'est une tentative d'intimidation des élites concurrentes des puissances occidentales.
Voilà ce que je peux faire et voilà ce que je sais faire aussi. Jérôme Poirot, est-ce que l'utilisation du poison, je pense que c'est pas l'apanage des services russes. Il y a quasiment tous les services de renseignement qui ont utilisé d'une manière ou d'une autre le poison ou pas ?
Oui, c'est une modalité intéressante parce que l'usage du poison, il y a les cas où c'est démonstratif, comme pour Litvinenko, il faut montrer qu'il a été empoisonné, qu'il a souffert, mais le recours au poison a pour vocation, en général, de masquer les causes de la mort. Et donc, un médecin qui examinera le défunt conclura qu'il a eu une crise cardiaque, une embolie pulmonaire. C'est ça l'intérêt du poison. Et il y a une affaire célèbre qui concerne la France, mais qui est un peu ancienne, qui date de 1960.
Il y a prescription.
Il y a prescription, et d'autant que le commanditaire était le Premier ministre de l'époque, Michel Debré, qui a décidé de faire assassiner un opposant au nouveau régime camerounais. Le Cameroun était indépendant depuis le 1er janvier 1960. Et Félix Moumier, qui était un des leaders du parti d'opposition marxiste, vivait en exil en Suisse. Et un réserviste du service action du SDEC, le prédécesseur de la DGSE, l'a invité à dîner en Suisse. Et c'est un peu la même histoire, la même affaire que celle que vous nous avez racontée. C'est-à-dire qu'il verse du thallium, un autre poison, dans l'apéritif de Moumier. Et puis, cet opposant ne boit pas son apéritif.
Ah, il y a un problème.
Alors, William Bechtel, ce réserviste du service action du SDEC, verse une nouvelle dose de thallium dans le vin de Félix Moumier, qui boit ce vin et qui, à la fin du repas, contre toute attente, boit son apéritif. Et donc, la dose est plus importante, parce que l'idée, c'était d'avoir une dose qui fasse que puisque le lendemain, il partait en Guinée, il devait être malade en Guinée et mourir en Guinée. Mais là, la dose est trop forte, donc le lendemain, il est hospitalisé, il décède, et la police suisse trouve les circonstances de la mort très bizarres. Une enquête est faite et on retrouve des traces de thallium dans l'appartement de William Bechtel, qui a eu la bonne idée de rentrer en France immédiatement.
Donc la France a utilisé le poison, je suppose.
Il y a longtemps.
Il y a longtemps, mais enfin bon, maintenant on ne sait pas, il y a des morts sans doute suspectes, mais les services en général de renseignement ont à disposition, je suppose, des officines et des chimistes qui sont aguerris pour fabriquer ce genre de toxines. En quelques mots, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, on a l'impression, c'est triste à dire, mais que le poison en matière de règlement de compte a encore de beaux jours devant lui, avec des matières toujours plus sophistiquées.
Oui, bien sûr. Pour un grand pays comme la Russie, c'est une très longue tradition. Il n'y a aucune raison pour que cette tradition prenne fin. Et il y a des savants de très très grande qualité en Russie. Et donc, il est vraisemblable que de nouveaux poisons voient le jour régulièrement.
Merci beaucoup Jérôme Poirot et Philippe Comte d'avoir été les invités de l'heure du crime avec ce soir l'opération Polonium, quand le poison tue et devient l'arme silencieuse des plus basses besognes. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard pour la préparation de l'émission, Marc Bisset la réalisation. Et puis un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir avec nous une nouvelle fois cette heure du crime.